Je profite de la prise de parole du docteur Amado pour poursuivre. Le docteur Amado est responsable du centre ressources en remédiation cognitive et en réhabilitation psychosociale en Île-de-France. Et du coup, va continuer de nous parler de ces modèles d'intervention personnalisée en Île-de-France.
Bien, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Alors moi aussi, je suis vraiment très épatée par la qualité de ce congrès et je voudrais remercier Monsieur Mariotti et Madame Degore aussi, qui a beaucoup donné pour cette organisation, et Madame Azel-Massieu pour ces trois journées vraiment magnifiques et de très grande teneur. Alors moi, je vais entrer plus dans les détails et à partir du modèle qu'on a développé en Île-de-France, aborder la question des centres de proximité, donc dans cette problématique des centres de réhabilitation. Alors, pour aborder ce propos, je vais un peu vous parler de l'histoire de notre structure au niveau du C3RP, parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre après comment les choses se sont produites. En fait, on a décidé à peu près en 2010 de se fédérer et on est parti sur trois unités. Notre unité, donc, qui est hospitalo-universitaire, avec plus une spécificité d'évaluation et de recherche et de coordination. Et en même temps, nous, on regroupait déjà les trois secteurs du 15e et la dictologie. Le secteur du 16e arrondissement du docteur Corinne Launay, qui depuis très longtemps en fait était impliqué dans la réhabilitation et le travail avec les ESAT, avec une spécificité d'hôpital de jour classique. Et puis le service de pédopsie de Catherine Doyen, qui elle, par ailleurs, avait donc à un centre ressources autisme et prend en charge plus particulièrement les troubles hyperactivité déficit de l'attention. Donc on est parti avec cet ensemble-là et on avait, en tout cas au niveau de notre partie C3RPCHU, on avait un certain nombre d'injonctions. L'ARS souhaitait qu'on soit très présent au cœur des structures extra-hospitalières de nos pôles. La direction voulait qu'on soit présent et reconnu par le groupe hospitalier de territoire. Donc on avait 5 hôpitaux parisiens qu'on devait déjà convaincre. Et puis il fallait continuer à remplir pour la partie CHU nos missions universitaires. Donc s'adapter au profil de patients qui était assez diversifié et aussi répondre aux besoins du secteur parce que nous sommes 15e arrondissement, donc au niveau du secteur, et structure universitaire. Donc on avait les deux, la double polarité. Et là, vous avez un peu une vue de la complexité. On parlait ce matin de la complexité, mais de la manière dont on se situe. C'est-à-dire qu'on est un peu une unité que j'ai appelée couteau suisse, adaptable et reproductible, qui peut s'articuler avec le secteur, avec des missions universitaires, également d'enseignement, de diffusion et de recherche, avec une antenne qui se trouve au niveau de l'extra-hospitalier et qui donc est en lien avec le centre de jour, les foyers de post-cure, le CMP, l'équipe mobile et l'intra-hospitalier d'autre part, l'intra-hospitalier lui-même ayant ses particularités, à savoir récemment labellisé « trouble du neurodéveloppement », Caroline Demilly en a parlé hier, également le centre jeune adulte, le CEJAD, qui est piloté par Marie-Odile Krebs, et les pathologies résistantes. Et donc il fallait pouvoir répondre à des demandes et réfléchir avec l'ensemble de ces dispositifs. Et puis, donc, à côté, les deux autres parties du C3RP qui existent également et avec qui on travaille en lien. Donc, il fallait développer un modèle de soins qui soit personnalisé Et on est parti déjà sur les méthodes, la personnalisation dans les méthodes. Et parce que, en fait, à partir du moment où on a commencé à développer certaines méthodes, et au départ, on est parti avec Nicolas à développer la méthode CRT, papier-crayon, et puis la méthode RECO, ce qui était des méthodes individuelles. Et on a commencé à nous dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites des patients beaucoup plus chroniques, des patients qui n'ont pas Bac plus 5, et régulièrement, on nous faisait cette critique. Donc, du coup, il a fallu réfléchir à des choses qui pouvaient être beaucoup plus accessibles pour des patients plus institutionnalisés. Donc, au niveau de l'ensemble du C3RP, il y a l'IPT pour les patients plus institutionnalisés. Et là, il est fait chez Corinne Launay. Au niveau de l'autre partie du C3RP, hôpital de jour, on a développé également, et on est en train de valider, un jeu en réalité virtuelle qu'on a appelé jeu Mathurin parce qu'on l'a d'abord développé rue Mathurin-Régnier dans notre CMP, où des patients réapprennent à planifier leur vie quotidienne en s'orientant dans une ville virtuelle. Et on est donc en train de valider, on essaie d'aller le plus vite possible pour pouvoir diffuser après ces techniques. On a toujours donc le programme CRT, qui est un programme papier-crayon individuel et que maintenant on réserve, parce qu'on a beaucoup d'autres possibilités, à des personnes qui ont vraiment de grosses difficultés et des personnes avec retard mental léger. On a le programme RECOS, que beaucoup de gens connaissent ici, qui est lui aussi individuel, mais que nous réservons du coup à des personnes qui sont très désorganisées ou à des personnes qui n'imaginent pas être en groupe, plus avec des profils autistiques, avec des grosses difficultés d'interaction sociale. Et la majorité des personnes avec schizophrénie et pas mal de personnes ayant un profil avec autisme sont dans les groupes NIR, où on peut prendre 6 à 8 personnes et on a maintenant dédoublé, voire triplé les groupes NIR qui se font chez nous. Et enfin, donc les groupes NIR, c'est aussi pour les jeunes et premier épisode. Et enfin, on est en train de concocter avec les neuropsychologues du CEJAD un entraînement digital sur tablette pour les sujets à ultra haut risque et les sujets de premier épisode dont on pense qu'il n'est pas bon qu'ils fréquentent trop les hôpitaux psychiatriques. Pour la cognition sociale, pareil, là, c'est surtout les programmes qui ont été développés par Nicolas et son équipe. On travaille avec Gaïa pour la reconnaissance des émotions. On travaille avec le programme de groupe SKIT pour les biais attributionnels. Et là, on peut prendre les personnes par groupe de 6 ou 8. Le programme RC2S en individuel pour des interactions sociales complexes. Et puis, l'équipe de Corinne Launay continue à travailler sur Tom Remède, qui est fait par l'équipe de Versailles. Donc vous voyez, on a suffisamment de programmes, et je reprends ce que disait Nicolas tout à l'heure, un secteur ne peut pas développer l'ensemble de ses programmes. Mais en revanche, chaque secteur doit réfléchir sur ces possibilités-là. En même temps, on a aussi une manière d'aborder les choses qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les diagnostics et nous travaillons sur les fonctions cognitives, ce qui est déjà un premier pas vers la déstigmatisation. On va travailler sur des groupes qui sont à peu près homogènes par rapport à leurs difficultés. En même temps, ça permet de mieux nous coordonner aussi autour d'un projet de remédiation cognitive et de définir, et ça c'est très important, un pilote. Qui pilote et qui co-construit avec la personne le projet de remédiation et le parcours pardon, de remédiation et de réhabilitation. Et ce n'est pas forcément nous, hein, c'est une psychologue d'un ESAT qui a une idée cohérente sur un parcours, un médecin libéral, c'est vraiment la personne qui a l'idée la plus cohérente sur le parcours du patient. Et on essaie d'envisager une trajectoire qui fait passer du soin à l'empowerment pour le rétablissement. Nicolas en a parlé. Et comme beaucoup de personnes l'ont dit depuis deux jours, on pense, nous, en France, qu'on a le terrain idéal. Et quand les étrangers regardent ce qu'on peut faire, ils en sont ébahis et s'en voient, mais vraiment, physiquement en plus. Ce qui est très important aussi, c'est comment faciliter l'empowerment. Et du coup, il faut se coordonner, mais on ne peut pas, quand on va monter une unité de remédiation-réhabilitation, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut qu'on construise un réseau. Et tout le monde ne peut pas avoir tout. Donc il faut savoir où on va adresser les personnes quand, dans le parcours de soins, il va falloir débuter par une thérapie comportementale ou débuter par des entretiens motivationnels ou de la psychoéducation ou même on débute par de la remédiation, mais après, pour la suite, il paraît important d'enchaîner avec quelque chose de complémentaire. Donc, la préoccupation sur le réseau est vraiment une préoccupation très importante. Et dans toutes ces dimensions-là, il y a beaucoup de dimensions, je n'ai pas mis la diapo, qui se travaillent en amont. Donc, quand on est dans un hôpital avec des services de secteur qui ne font pas partie de la plateforme et du dispositif de réhabilitation, ils ont tout autant de travail, et voire un travail encore plus intéressant, de préparer les personnes à ce parcours de réhabilitation, parce que la préparation, elle démarre dès le premier accès aux soins, avec la psychoéducation, avec les entretiens motivationnels, avec éventuellement la prise en charge en addictologie, avec l'accès aux activités physiques adaptées, etc., et à tous les droits dont on a parlé, les droits du patient, pour qu'au moment où on place la partie remédiation, soutien à l'emploi, etc., à ce moment-là, la personne est déjà éveillée et prête à ça. Également, donc, j'ai développé aussi un modèle qu'on a appelé le modèle tremplin, sachant qu'on sait que les bénéfices de la remédiation, et ça c'est les méta-analyses qui nous l'ont appris, ça dure 6 à 8 mois. Donc, il faut qu'on fasse un rétro-planning en fonction du début, de la date à peu près du projet, pour savoir quand on va placer le moment de la remédiation. Et comment on sait la date du projet? On le sait en connaissant parfaitement bien ses partenaires médico-sociaux. Alors, quand c'est la date du bac ou quand c'est la date d'un concours, elle est facile à deviner, elle est facile à connaître. Mais quand c'est une admission dans telle ou telle structure, au début, c'est vrai qu'on nage un peu, mais quand on connaît bien les structures de manière mutuelle, hein, parce que c'est une connaissance mutuelle, à ce moment-là, ils vont nous dire, ils nous disent, mais oui, préparez-le, et nous, on peut le prendre vers cette date-là. Et à ce moment-là, on fait un rétro-planning. En même temps, on fait un rétro-planning aussi avec la partie administrative. On sait à peu près, dans chaque département, dans chaque région, quand va revenir le dossier MDPH. Et de toute façon, quand on fait de la réhabilitation, on connaît très bien nos partenaires MDPH, on leur envoie un mail, et ils savent que les enjeux sont importants, donc ils nous disent quand ils peuvent nous renvoyer le dossier. Et du coup, on fait ce modèle tremplin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fondu enchaîné avec le moment de la remédiation qui va continuer avec le projet de réhabilitation. Et lorsque le programme de remédiation est terminé, à ce moment-là, l'infirmière, tous les mois, revoit le patient et éventuellement remobilise celui-ci s'il y a besoin d'un petit quelque chose avant le projet. Donc, quand il s'agit d'un premier épisode ou d'un sujet à ultra haut risque, eh bien, c'est encore plus construit avec en plus la place évidente d'un case manager qui est très importante dans la mesure où il faut véritablement coacher cette personne jusqu'au bout parce qu'il s'agit vraiment d'un enjeu important, il ne faut pas le perdre. Et là, vous avez toute une série. En fait, le modèle est quasiment le même, mais les modèles, les structures d'amont et les structures d'aval, les programmes de psychoéducation, les programmes d'entretien motivationnel, etc., sont adaptés, bien sûr, à ce jeune et sont différents de personnes qui sont plus avancées dans la maladie. Donc, en même temps, on a décliné ce modèle-là sur nos unités intersectorielles. Et du coup, ça a permis que le centre de jour, l'hôpital de jour, soit complètement orienté vers la réhabilitation et du coup, prenne finalement que des parcours beaucoup plus complexes avec des infirmiers qu'ils ont formés à des programmes complémentaires aux nôtres. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. Et moi, j'envie le docteur Dadi qui s'occupe de ce centre de jour parce qu'elle a véritablement à construire des parcours passionnants que nous, on n'a pas parce que du coup, on prend la majorité des patients qui vont entrer en ambulatoire. Également, le foyer de post-cure devient à ce moment-là un laboratoire vers l'autonomie. Et ils ont pu développer des case managers qui font le lien entre les sessions de remédiation, le foyer de post-cure, puis ensuite les appartements associatifs et le retour à domicile. Et du coup, là aussi, ça différencie d'autres métiers, ça redéploie les moyens vers une autre orientation des métiers du secteur qui est très intéressante. Et bien sûr, on s'articule aussi avec les plateformes de réhabilitation. Le transfert des acquis au quotidien, on est en train de créer un enrichissement de la méthode papier-crayon CRT avec des personnes relais pour l'aide à l'organisation aux études, pour apprendre à prendre des notes, apprendre à être plus opérationnel sur son travail, etc., apprendre à être autonome. En Ile-de-France, comment on a fait ? On a d'abord fait une enquête territoriale et on a vu quelle était l'accessibilité de la remédiation cognitive sur l'Ile-de-France. On a eu un certain nombre de réponses. Ça nous a permis de voir quels étaient les territoires où, en fait, on avait peu d'offres de remédiation cognitive, peu d'offres de réhabilitation, peu d'offres de psychoéducation. On a vraiment fait une enquête très, très approfondie. Et du coup, on a déterminé avec l'ARS des territoires où il était important qu'on puisse mettre des dispositifs. À partir de là, j'ai essayé d'entrer en contact avec ces différents endroits et on a travaillé ensemble pour réfléchir sur comment mutualiser des moyens au niveau d'un hôpital, comment échanger autour des profils de population avec des déclinaisons locales, parce que ce n'est pas pareil selon le bassin d'emploi, selon les différentes populations et selon les spécificités de chaque hôpital, avec cette incitation à mutualiser les ressources, à se coordonner avec les structures médico-sociales du coin, et donc en même temps une incitation à s'inscrire sur le DU de remédiation de Lyon pour les personnes décisionnaires, s'inscrire aussi sur le réseau AFRC, se former aux techniques de remédiation qu'on a sur Paris et pour les autres cognitions sociales sur Lyon ou même sur Versailles, et à venir aussi, on a un congrès annuel. On finalise le projet avec une toolbox que je fournis aux personnes qui montent le dispositif intersectoriel et je les accompagne à l'écriture de leur projet. Quel panier de soins, quelle couverture du territoire, le pluridisciplinaire, comment ils vont l'organiser, comment ils vont faire leur lien avec les structures médico-sociales du coin. Et une fois que le projet est prêt, ils vont voir le directeur de l'hôpital et l'ARS, qui en Ile-de-France donne très peu, malheureusement. Ce n'est pas du tout la même chose que dans d'autres ARS. Mais enfin, on arrive quand même à faire évoluer le système. Donc du coup, on a créé des nombreuses plateformes intersectorielles, comme ça, en Ile-de-France, avec des plateformes qui continuent à être en projet. Certains qui ont démarré sur des hôpitaux de jour transformés en hôpitaux de jours de réhabilitation et après sont passés à l'étape d'après. C'est comme ça qu'ils ont fait, par exemple, au niveau des murets, où ils ont déposé quelque chose au niveau de la région. Et puis, il y a donc tout un certain nombre de structures qui se sont là aussi développées. Comme exemple, la plateforme de Montesson, qui est donc pilotée par le docteur Platzkou, qui s'est formée au DU avec sa neuropsycho. Ils ont labellisé, je crois qu'ils ont eu la labellisation ARS hier ou avant-hier pour leur programme de psychoéducation. Ils ont organisé une conférence UNAFAM, rencontré les ESAT, ça y est, ils sont bien partis. Également, une autre plateforme qu'on a écrit le projet ensemble à partir de notre commission réhabilitation du GHT. Et depuis 3 semaines, une autre plateforme a vu le jour. On l'a appelée la plateforme Nord-Parisienne. C'est une sorte de C3RP, mais pour le nord de Paris, située sur Maison-Blanche. Ils viennent juste de commencer. Ils démarrent leur formation. Quelqu'un se forme au DU de remédiation et on va leur donner les formations nécessaires. On a monté également sur la GHT, en fait, tout un réseau de réhabilitation avec presque tous les hôpitaux de jour parisiens et l'ensemble des foyers cliniques publics de post-cure de Paris et notre C3RP, la future plateforme réhabilitation Nord-Paris et une structure originale aussi de réhabilitation pour les patients au long cours qui s'est créée aussi donc sur ces 5 hôpitaux GHT. On va transformer, parce qu'on a 2 ans de travail ensemble maintenant, très cohérent, on va transformer ça en réunion de concertation pluridisciplinaire en invitant les structures médico-sociales qui sont nos partenaires sur Paris et la MDPH pour réfléchir sur des parcours complexes. On a fait des interventions personnalisées aussi sur le territoire national et à l'international. Il y a pas mal de plateformes qui se sont créées à Tunis, une qui est en train de se créer à Beyrouth, à New York, il y a une 60aine de centres qui se sont créés, à venir à Singapour et à Padoue. Donc en conclusion, on propose la diffusion des techniques de prise en charge autour de la remédiation cognitive adaptée à la proximité et au travail de secteur. Ça permet de faire évoluer les secteurs, mais aussi les hôpitaux, vers ces nouveaux modèles. Cette implantation est étroitement en lien avec l'ARS. Ça prévoit des dispositifs intersectoriels qui sont accompagnés tout au long de leur projet. Ça peut tout à fait compléter les modèles qui ont été créés par tout le dispositif Rhône-Alpes, et ça peut s'articuler aussi avec le parcours socio-sanitaire Passe-Vert de Versailles, et ce modèle est donc diffusé un petit peu partout. Voici les équipes, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup docteur Amado. Juste avant de prendre éventuellement des questions ou des commentaires, je voulais juste vous annoncer un petit changement de programme. Il ne va pas y avoir de pause et on vous propose d'enchaîner avec les 2 dernières interventions puisque voilà, il reste un peu moins d'une heure de congrès et on trouvait ça plus fluide d'enchaîner. Mais par contre, il y aura un petit temps réservé pour continuer d'échanger entre nous et de se rafraîchir également à la fin de la dernière intervention. Donc voilà, c'était juste pour prévenir. Maintenant, s'il y a des questions, commentaires et autres réflexions.
Bonjour. Je suis toujours émerveillé de votre enthousiasme, de tous les intervenants sur des projets aussi beaux que ça. Alors, je suis évidemment directeur financier, donc je vais poser des questions un peu plus terre à terre. Mais elles intéressent quand on veut soutenir quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Donc, j'ai plusieurs questions, vous verrez si vous pouvez y répondre. Mais c'est, quelle est la base du recrutement? Quel est le besoin potentiel auquel vous adressez, par exemple, sur un territoire de 100 000 habitants? Ça fait combien en potentiel que vous pouvez récupérer dans ces nouvelles structures que vous proposez? Ça, c'est une première question. La seconde, c'est, quels sont les indicateurs de pilotage que vous mettez en route dans vos structures pour savoir où on avance, quand on arrive au bout, etc. Quel est l'impact aujourd'hui sur une population auquel on n'adresserait pas, c'est de vos système, ces nouvelles offres par rapport à les enjeux que vous gérez maintenant. Quel est l'impact sur les durées moyennes de séjour, sur les prises en charge en hôpitaux de jour? Et enfin, ma toute dernière question, c'est est-ce que vous n'arrivez pas à faire également des soins de prévention, donc même avant l'hospitalisation, déjà de prendre en charge les patients dans ces systèmes?
Alors, pour les soins de prévention, je prends la question la dernière. L'entraînement digital sur tablette, là, ça va être des soins de prévention, en fait. Hein. Donc là, ça, c'est du côté du centre jeune adulte, et c'est eux qui mettent en place les soins de prévention. Pour les outcomes, les indicateurs, nous, on a fait une enquête avec 7 ans de recul sur pas beaucoup de dossiers, parce que les premières années, on avait très peu d'effectifs. Donc, on avait 170 personnes qu'on a essayé de contacter. Au bout, on a eu 65 dossiers de personnes qui ont signé, etc., et qui ont bien rempli les données. Et on a un nombre très significatif de personnes qui restent dans le milieu du travail ou de la formation, qui continuent à faire des formations, et également avec des indices importants en faveur d'un rétablissement. Donc, les choses tiennent avec, en plus, assez peu de rechutes. Ou en tout cas, des rechutes qui restent très limitées. En fait, ça corrobore ce que montre Nicolas ou ce que montrent les études internationales. Maintenant, effectivement, on ne peut pas absorber énormément de personnes, mais s'il y a dans chaque hôpital des centres, des dispositifs, des plateformes qui se créent, déjà il faut que la personne soit prête à accepter et soit éligible pour le parcours. Ça limite quand même pas mal, hein, parce qu'il y a la question des traitements, parce qu'il y a la question de la motivation, etc. On va pas donner comme ça un satisfecit pour rentrer dans un parcours alors qu'on pense que la personne n'est pas prête. Et donc, il faut après les préparer. Et ça, c'est très important. Voilà, je ne sais plus. Alors, je ne sais pas s'il y avait une autre question encore. Voilà, les mesures de l'impact. Il y a beaucoup moins de rechutes. Et même quand il y a des rechutes, je dirais qu'elles sont presque beaucoup mieux gérées. Elles ne sont pas forcément avec hospitalisation en plus. Voilà, parce que l'empowerment, c'est aussi ça. Les moyens humains, on a deux neuropsychos, on a deux infirmières, moi j'ai une assistante plus un petit temps d'interne, on se partage avec le centre maladies rares un interne, et voilà. Donc, c'est les moyens humains. Nicolas, il en a peut-être plus. Oui, toi, tu as... Mais nous, je vous dis, sur l'Île-de-France, il y a très peu de ressources qui sont allouées par rapport à d'autres départements. Donc, on a eu ces moyens-là. Ouais.
Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, moi aussi, je suis directeur financier. Je ne suis pas très habile pour parler. Donc, moi, c'est juste un témoignage. Il y a 18 mois, on s'est lancé à marche forcée dans la réhabilitation. Enfin, marche forcée, ce n'est pas un bon terme. Et ça fait un peu référence à l'intervention de ce matin de Laurent Bibard. On s'est appuyé sur ce qu'on savait faire et on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on ne savait pas faire. Donc, non, je ne tiens pas à dire de. Ce n'est pas pour faire de la pub pour moi. Hein. C'est. On avait en fait participé à une convention du C2RL à Limoges sur la réhabilitation, et c'est là qu'on s'est aperçu aussi qu'on ne savait pas faire. On s'est lancé là-dedans, et ce qu'on ne savait pas faire, il y a le C2RL de Limoges et le professeur Franck qui a dit « Oh, nous on sait faire, on peut vous aider ». Donc on s'est formé, effectivement. Et donc, comme on est côté usager, 100% des gens formés ont été contents de la formation. Et ont changé. C'est pas qu'ils ont changé leur pratique, c'est qu'il y a des choses qu'ils savaient pas faire qu'ils ont appris à faire. Et donc je donnerai un exemple après. Et donc moi, qui suis directeur financier, je peux qu'encourager les directeurs financiers à trouver des enveloppes pour former les gens. On a créé, enfin, on l'a fait hors ANFH, parce que de toute façon, les budgets ANFH sont très petits. Et le challenge, moi, j'ai pas de regrets. Il y a des dépenses que j'ai pas fait ailleurs. Et ça n'a pas coûté si cher que ça. Alors nous, par exemple, on a un neuropsychologue, deux ergothérapeutes, on a six infirmières, parce qu'on a aussi monté une équipe mobile. On a éducateurs, on a... Et pour former cette vingtaine de personnes, ça nous a coûté que 50 000 euros. Bon, les DU sont un peu plus chers parce qu'il faut se déplacer jusqu'à Lyon, mais ça, on n'y peut rien. Mais au final, 20 personnes ont été formées. Mais c'est pas que 20 personnes qu'on forme, parce que les autres autour se sont intéressés. Donc on a fermé une unité de 20 lits de chronique. Et il y en avait, alors moi c'est pas des patients, c'est des amis, enfin des gens que je connais, enfin ça devient des amis à force au bout de 10 ans, et qui me disaient quand est-ce que je sors. Et une personne que je voyais plus. Donc j'ai pensé qu'elle était malade, et puis un jour, dernièrement, je suis allé faire des courses en ville, et je suis tombé sur lui. Et il avait enfin un appartement, parce que l'équipe de santé avait décidé qu'en fait, ce qu'il pensait impossible était possible. Donc je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu, parce qu'il souriait. Il n'avait plus de médicaments le midi, donc il zonnait plus à côté de la cafette pour attendre. Il avait perdu plus de 20 kilos. Donc c'est juste voilà, un témoignage. Et quand on parle de formation, des fois, on a l'impression qu'une fois qu'on est formé, on laisse tomber. Ben non, nous, le C2RL et le CRR de Lyon, nous accompagnent toujours, même si on ne paye plus. On a toujours quelqu'un qui parlait. Voilà. Je n'ai pas osé prendre la parole tout à l'heure quand vous êtes intervenu, mais je voulais le dire. Et c'est pas un investissement. Enfin, on parle toujours d'investissement quand on est financier. C'est pas un investissement que de mettre 50 000 euros pour mieux soigner les gens. Voilà. Ça fait partie d'une chose que je n'ai pas entendue depuis 3 jours, c'est la bientraitance.
Oui, je crois que vous avez raison. Et je dirais que c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que déjà, la première chose que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que pour qu'une personne soit éligible, il faut que le traitement soit bien ajusté. Ben, juste ça, les 3 premières années de notre fonctionnement, eh bien, le nombre de praticiens qui, du coup, se sont mis à réfléchir pour que les traitements soient mieux calibrés et pour que les personnes puissent être acceptées pour un circuit, un parcours de réhabilitation, ça a changé complètement les pratiques. Et on n'a plus, enfin, moi, je ne vois plus du tout en consultation de personnes que je renvoie vers le praticien pour des motifs de traitement qui ne conviennent pas.
Oui, François Courteau, Centre hospitalier de Roufac. Ma question est tout à fait pratique et un peu intéressée. Votre présentation est complémentaire de la présentation du professeur Franck. Et à un moment, j'ai cru comprendre que vous faisiez quelque part des offres de services quand on a besoin de se restructurer en termes de réhabilitation psychosociale. En définitive, à qui on s'adresse? Parce qu'on a déjà eu des contacts avec le professeur Franck à Lyon. On a un projet de réorganisation de la réhabilitation psychosociale à l'échelle du département dans le cadre du PTSM et tout le tout-team. Est-ce qu'on va indifféremment chez l'un ou chez l'autre? Ou est-ce que vous êtes partagé le travail d'une certaine façon? C'est ma question.
En fait, ça dépend quelle est la configuration locale, ce vers quoi vous voudriez tendre par rapport au contexte de votre hôpital. C'est vrai que nous, étant donné qu'on n'a pas eu du tout la possibilité d'avoir une implantation comme avec des structures comme ont été créées sur Lyon et Rhône-Alpes, on a vraiment été obligé de faire de la proximité, du travail de proximité, et comment on peut arriver avec les moyens du secteur, repenser autrement, à monter quelque chose, un dispositif qui tienne la route et qui soit intéressant pour de la réhabilitation. Donc, vous voyez, les contextes sont un petit peu différents, mais les modèles sont les mêmes, les techniques sont les mêmes, on arrive au même résultat. Et voilà, si on nous avait donné les mêmes moyens au départ, je pense qu'on aurait fait aussi ce modèle-là, mais c'était différent. Et puis finalement, ça a abouti à des choses qui sont aussi intéressantes. Donc après, c'est vous qui voyez.
Bien, merci beaucoup.